fêtes. On a l'habitude de toujours parler des traditions comme chez Torah. Et dans cette paracha, on apprend qu'en réalité, il y a sept, il y a sept livres dans la Torah. Il y a cinq. Parce qu'il y a un petit livre là, qui est caché dans la paracha de Baalotra, qui est ces deux versets qui sont entre les nouns à l'envers. Donc, si vous prenez le chapitre Yud, verset Lamed Hei, 35, donc 10, 35, c'est la sixième montée. Ça commence par un nun à l'envers, un espace dans lequel il y a un nun à l'envers. Et puis, il y a deux versets qu'on connaît parce que c'est les psukim qu'on dit quand on sort la Torah. Vahi binsoa Aaron, vayomer Moshe. Alors, ici, ça parle du fait que les Bnei Israël dans le désert, ils ne se déplaçaient que quand les nuées de gloire qui les accompagnaient se déplaçaient. Et donc, quand le Aaron se mettait en marche, puisqu'il se mettait en marche quand les nuées de gloire se sont mises en marche, alors quand il se mettait en marche, alors Hachem, Moshe Rabbeinu disait à Kadosh Baruch Hu, il lui disait, Kuma Hachem, lève-toi Hachem, ça me parlait comme ça, et Viafutsu Oivecha, que tes ennemis soient dispersés, Vianusu Mesanecha Mipanecha, et que tous ceux qui te haïssent fuient devant toi. Ça, c'est quand le Aaron se mettait en marche, quand les Bnei Israël commençaient leur déplacement. Et quand les nuées s'arrêtaient, alors les Bnei Israël savaient qu'ils allaient camper. Donc, quand Aaron s'arrêtait. Bonsoir, Bernard.
Bonsoir.
Nucho Yomar, il disait Shuva Hashem. Moshe Rabbeinu disait à Kadosh Baruch Hu, Shuva Hashem, c'est-à-dire Shem, reste Hashem, ici. Rivevot Alfe Israël, parmi nous. Et là, il décrit le clan Israël comme étant Rivevot Alfe Israël. On a ici le nombre minimum de juifs pour constituer le clan Israël, ce n'est pas beaucoup. Rivevot. Rivevot, c'est un pluriel, et ça veut dire deux myriades. Rivevot, c'est une myriade. Donc, deux fois 10 000. Donc, jusque-là, vous me suivez, ça fait 20 000. Et ensuite, Alfe, c'est le pluriel de Elef, de 1 000. C'est donc 2 000. Donc, c'est 22 000. Je trouve que ça correspond aux lettres de l'alphabet, etc. Mais voilà, le clan Israël, ici, il est présenté comme si il y avait 22 000 personnes dans le clan Israël, alors que Moshe Rabbeinu, il dirigeait dans le désert une population où il y avait plus de 600 000 hommes d'une certaine tranche d'âge. Donc, il y avait des millions de gens. Là, il parle de Rivevot Alfei Israël, de ces 22 000 d'Israël. Alors, Chazal considère que ça forme, entre les deux nouns à l'envers, ça forme un Sefer. Ça a le statut d'un Sefer. C'est de là qu'on apprend, parce qu'il y a, si vous comptez les lettres, vous verrez qu'il y a 85 lettres dans ces deux psukim. 85, ça se dit P-E, et P-E, c'est la paix, c'est la bouche. Et donc, on considère que quand on a des fragments d'un Sefer Torah qui contiennent les 85 lettres, alors on a une mitzvah de le sauver. S'il y a un incendie, il faut le sauver. Si c'est moins, ça n'a pas de gdusha de Sefer Torah. Alors, évidemment, si on peut le sauver, on le sauve. Mais ça n'a pas cette... C'est pas aussi important. Et donc, de là, on apprend que le Sefer Bamidbar, il est partagé en trois. Il y a depuis le début de Bamidbar jusqu'au premier Noun. Entre les deux Noun, ça fait un deuxième Sefer. Et du dernier, du deuxième Noun jusqu'à la fin de Bamidbar, ça en fait trois. C'est-à-dire qu'au lieu de que Bamidbar compte pour un, dans les Chamisha Chumshe Torah, en vérité, on a sept livres qui composent le Sefer Torah. Il n'empêche qu'on continue toujours d'appeler ça Chamisha Chumshe Torah, Chumash, avec la racine Chamesh. Bon, je ne vais pas dire ce que vous attendez que je dise concernant le 5, mais je ne dirai pas. Ceux qui savent, ça, ils l'ont entendu. On va parler aujourd'hui justement de... Il y a beaucoup de choses à dire sur ces nounounes à l'envers, etc. Il y a un sefer de Rabbi Tzoka Isaac Haver, qui était un grand maître, un mekoubal, qui a beaucoup travaillé sur les écrits, entre autres, du Gaon de Vilna, et qui commente, il a beaucoup commenté ce texte-là, et on va essayer de voir un peu ce qu'il en dit. On va entendre un peu quelque chose d'autre que ce qu'on dit traditionnellement, toujours sur Vaïmin sur Aaron, effectivement. C'est un Zohar, d'abord. Quoi, la Torah, elle a choisi justement des nouns à l'envers pour marquer la séparation de ces deux versets, de ce qui était avant eux et après eux. Chazal nous dit quelque chose d'assez énorme à ce sujet-là. Donc, le Rabbi Tzoka Isaac Haver, il ramène ça. Et il est comme ça. Ces deux nouns, em kvodo shel HaKadosh Baruch Hu mamash. C'est l'honneur, le poids d'HaKadosh Baruch Hu. D'une certaine manière, em ikaro shel olam. Ces deux versets-là, ces deux nouns sont l'essentiel du monde. Et lorsque Yaakov a vu cela, dit le Zohar, il a béni ses fils et il leur a dit Veyit Gou Larov, que on traduit Ukenune Yama Isgun, soit comme les vagues, comme les vagues de la mer. Il leur a donné une bracha d'être extrêmement nombreux. Akadosh Baruch Hu otzi haumot miklal otam ashnei nunin. Lo nin lo velo nechet. Et Akadosh Baruch Hu, il a sorti les autres peuples d'entre ces deux nouns. On va le commenter après, mais Avimelech, vous connaissez, c'est le fameux roi philistin qui a eu des problèmes, avec lequel Abraham et Yitzhak ont eu des problèmes, un peu analogue à ceux que Abraham a eu avec Paro, qui a pris Sarah et ensuite Rivka. Lui, Avimelech, il a voulu s'associer avec Yitzhak Avinu. Il voulait, en vérité, coller littéralement, avoir affaire avec ces deux nouns à l'envers. Parce que c'est ça que le Zohar entend. Avimelech a dit à Yitzhak, quand il a fait une alliance avec Yitzhak, si vous vous souvenez, et il lui a dit Im tchaker li ou le nini ou le nechdi. Avimelech dit, il a fait un pacte, une alliance avec Yitzhak, et il lui a dit si jamais tu me mens, bon, tu tiens pas l'alliance à moi, ou bien à mes petits-enfants, ou à mes arrière-petits-enfants, etc. Normalement, tu seras fautif, etc. Et Akadosh Baruch, a-t-il Akadosh Baruch Hu l'arzir à nous nîn l'imkomam? Akadosh Baruch Hu va ramener un jour, il va ramener ces nouns à leur place. Ils sont visiblement, ils sont pas vraiment à leur place. On va voir. Et sur ces nounines là, ces deux nouns, mevarchim haumot tamid alilot al Israël. À cause de ces deux nouns, tous les peuples ont toujours des prétextes pour attaquer Israël. Mitanchim vedoagim she'en laem chelek baem. Ils ont des problèmes, ils se plaignent de ne pas être concernés par ces deux nouns. C'est marqué dans le pasouk, Amrou Belibam, ils ont dit, disant dans leur cœur, Ninan Yachad. Ninan, c'est les deux nouns. Yachad, soyons ensemble dans les nouns. Ou Beloua Nounin, Atin Akadosh Bokhu, les Mifrich, le ou les Israël, à l'idée Mashiach. Je n'ai marre, Ifne Shemesh, Yinon, Shemo. Un des noms du Mashiach, c'est Inon, qui a deux nouns. Inon. C'est un des noms du Mashiach. Akadosh Baruch Hu va faire fructifier les Bnei Israël sous le règne du Mashiach, si vous voulez, par le mérite de ces nouns-là. On ne comprend évidemment rien du tout de ce texte. Eh bien, on sait toujours que les Chazal ont l'habitude de mettre, de cacher des choses terribles, des choses très importantes, dans des midrashim incompréhensibles. Alors, on va essayer d'y voir un tout petit peu plus clair. On va utiliser donc cet enseignement de ce Rabbi Yitzhak Isaac Haver. Il explique comme ça. Israël et la Torah sont liés et ils sont singularisés avec la volonté d'Hachem et ils bénéficient donc de la Hashgacha d'Hachem, la Providence, de la même manière en quelque sorte. La Torah et Israël sont à ce point-là associés. C'est que lorsque ce que nous faisons est agréable et considéré comme bon par Hachem, alors, bien sûr, Akadosh Baruch Hu s'occupe de nous, il nous fait bénéficier de sa Hashgacha, de sa volonté. Et à ce sujet, on voit que les Bnei Israël sont comparés à la Levana, ils sont comparés à la Lune. La Lune, dont la lumière dépend évidemment de sa situation par rapport au Soleil. Le Soleil, lui, sans limite, en quelque sorte, et lui, mais bon, il se partage la journée d'une manière ou d'une autre selon les saisons. Et donc le soleil et la lune sont en quelque sorte comme deux demi-sphères face à face. Et de la même manière que nous bénéficions de la lumière du soleil, que de la face du soleil qui lui vers nous, évidemment. L'autre côté n'est pas visible. Même chose En fait, nous ne connaissons pas Hachem. On n'en connaît que sa volonté. On ne connaît que la providence. C'est-à-dire, on ne le connaît qu'en tant qu'il se tourne vers les créatures. Hachem lui-même, on ne sait rien. On sait seulement ce qui nous est accessible, un petit peu accessible, dans la mesure où il se tourne vers nous. Et donc, c'est pour ça qu'on pourrait considérer que cette situation, elle peut être comparée à ces deux nouns. Ils sont donc deux demi-cercles, en fait, comme des parenthèses, si vous voulez. Tourner donc l'une face à l'autre. Et donc, on peut considérer ça comme le soleil et la lune, quand la lune est dans sa plénitude, en fait, et que le soleil l'éclaire complètement. Le lien entre les deux, c'est la Torah et les mitzvot. C'est ce sujet de ces deux demi-cercles là qui se correspondent et qui sont liés. Le ciment qui est entre les deux, c'est la Torah et les mitzvot. Et d'une certaine manière, qu'est-ce que c'est que la Torah et les mitzvot? Comment est-ce qu'ils sont représentés? Ils sont représentés comme étant les louchot qui sont dans le haron. C'est comme ça que tu peux comprendre cette idée des deux nouns qui entourent ces versets dans lesquels on parle de Vayi Binsoa à Aaron, lorsque le haron se met en marche. Les Chazal disent qu'en réalité, ces deux nouns, ils se font face. En vérité, le dos qu'ils donnent à ce qui était avant et ce qu'il y aura après, d'accord, c'est deux demi-cercles, ils sont ouverts l'un vers l'autre, mais la partie fermée pointe vers ce qu'il y avait avant et ce qu'il y aura après. Et les Chachamim disent qu'en vérité, ces psukim qui sont dans cette espèce de parenthèse-là viennent séparer pour un août et pour un août. C'est-à-dire, ils viennent séparer deux sanctions, deux punitions qui affectent le clan d'Israël. Parce que ça pointe vers le fait que les Bnei Israël ont fauté. Et du coup, c'est la raison pour laquelle les nouns leur tournent le dos, en quelque sorte. C'est marqué Vaïssou Mehar Hashem. Les Bnei Israël ont quitté la montagne d'Hashem. C'est quand ils sont partis du Sinaï, ils sont partis Vaïssou Mehar Hashem. Les Chazal disent qu'ils en sont partis Ketinok Aborach Mibet HaSefer, comme un enfant qui s'enfuit de l'école. Partons rapidement parce que sinon il va nous donner encore plus de mitzvot. On a déjà 613, on s'en va. Shekol Kiyumam ou à la Torah. Alors qu'en réalité, c'est uniquement la Torah qui les fait tenir, et ils se sont enfuis de l'endroit où ils ont reçu la Torah. La présence d'Hachem, elle était sur le Haron. C'est dans les Krouvim, à partir des Krouvim, que Hachem parlait à Moshe Rabbeinu, il avait la présence d'Hachem. Alors, comme ils ont tourné le dos en quelque sorte, au Aaron, alors le Noun a pris soin du Aaron en quelque sorte. C'est le Noun qui entoure le Aaron. Il donne le dos à ce qui s'est passé avant. On voit que les Noun ici, ils font référence à la présence d'Hachem, la présence d'Hachem sur le clan d'Israël. C'est-à-dire qui était cette présence, elle était concrètement, elle était sur le Aaron, à l'intérieur duquel, comme vous le savez, dans le Aaron, il y avait les deux louchot, il y avait les louchot, qu'on avait reçus, et puis aussi un Sefer Torah, et aussi les brisures du premier, les premières louchot. Et c'est pour ça qu'effectivement, la Torah, les louchot ont été donnés au fameux 50e jour de la Sphira. On rappelle que Noun, c'est 50. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle, dans le Tehillim de Ashrei, Ashrei Shevetecha, comme vous savez, il n'y a pas de Noun non plus. Parce que Ashrei, ça fait référence à la galoute d'Israël. Alors, on n'a pas voulu écrire dans ce qui fait référence à la galoute, le Noun. Parce que Noun, c'est la Nefila, c'est la chute. Et donc, on n'a pas voulu qu'il y ait un dévoilement, en quelque sorte. Ça veut dire, comme de toute façon en galoute, Hachem ne se dévoile que de façon Esther Panim, quoi. C'est un dévoilement, mais c'est un dévoilement caché, si on peut parler comme ça. C'est un peu contradictoire. Donc, en vérité, il reste seulement une espèce de smicha de Alma, c'est-à-dire de ma chez smartem beruach hakodesh achakach beod samech. La lettre qui vient après le Noun, c'est le samech, et la smicha, le fait de pouvoir s'appuyer. Alors, on n'avait que le ruach hakodesh, on n'avait pas la présence divine, on a seulement une forme faible de nevoie. Quand les Bnei Israël sont partis du Sinaï, alors Kadosh Baruch Hu, puisque vous voulez pas rester avec moi, alors moi non plus, je m'en vais aussi. Donc il s'est caché, il s'est caché par rapport au clan d'Israël. Et d'une certaine manière, Hachem voulait quitter le clan d'Israël, si on peut parler comme ça. Et s'il est resté, c'est à cause de cette prière de Moshe Rabbeinu. Non, c'est ce que Moshe Rabbeinu demande à Hachem. Quand les Bnei Israël voyagent ou quand ils campent, ils demandent à chaque fois, dans les deux situations, ils demandent à Hachem de rester avec le clan d'Israël. Ça, c'est la prière de Moshe Rabbeinu qui a sauvé le clan d'Israël d'une situation dans laquelle il s'était mis, qui entraînait a priori qu'Hachem allait les abandonner, en fait. C'est pour ça que le « nous » n'est pas complètement parti, mais simplement tourné le dos. Comme il dit, le Mitzvah Kaiser qui dit « c'est comme un père » Arotzel istalek mibno, vous montrez qu'il est en colère pour son enfant, alors il tourne le dos. Ofer panav la chawav, marelo shirotzel arzo. Montre qu'il veut partir. Et à ce moment-là, l'enfant lui demande de rester. Et du coup, il se retourne. Donc c'est pour ça que le nous est resté, sauf qu'il est resté sous la forme inversée, il est retourné. C'est pour ça que quand mon cher Rabbeinu a vu ça, alors il a dit « Kouma Hachem, ne nous abandonne pas. » Ne te détourne pas complètement de nous. Et après, Vayi, Aham Kemitolonim, après quand les Bnei Israël ont de nouveau commencé à grogner, à se plaindre, etc., de nouveau, mon cher Rabbeinu a dû prier pour qu'Hachem reste. Et sans cette prière de mon cher Rabbeinu, sans ce Uvnucho Yomar, Shuv Hachem, Livot Alfei Israël, le Noun est toujours à l'envers, mais il est resté quand même. On va essayer d'expliquer un peu plus. Le livre de Bamidbar, comme je vous ai dit, il est partagé en trois. La première partie, depuis le début de Bamidbar jusqu'au Noun inversé, le premier Noun, il décrit les tribulations des Bnei Israël, mais on parle du cheminement des Bnei Israël, cheminement normal avant qu'il ne faute. La dernière partie nous parle justement des Massaot, de toutes les stations par lesquelles les Bnei Israël ont passé, alors qu'ils n'avaient pas de raison de passer par là. Mais voilà, ils sont dans les situations où ils n'auraient pas dû être, dans une situation dans laquelle ils vont continuer de faire des fautes, dans laquelle il y aura des obstacles. Et la paracha de Vayi Binso Aharon, qui est entre les deux, son but, c'est de relier les deux parties du Sefer Bamidbar entre elles. Donc, le sujet de cette paracha, c'est la présence divine. Les psukim, on voit que ce que Moshe Rabbeinu voulait dans sa prière, dans cette prière de Vayi Binsoa, il voulait que la Shrina, la présence divine, soit sur le clan Israël, soit présente dans le clan Israël par l'intermédiaire ou grâce au Aaron, grâce au Aaron HaKodesh. Donc, Vayi Binsoa Aaron, Vayomer Moshe Kum Hashem Yafutsu Evercha, Yanusu Misanecha Mipanecha, et le Zohar dit ici, Moshe Rabbeinu a dit « Kouma Hashem, al ta'azov otan, ne nous abandonne pas. Asev panecha eleinu, tourne ton visage vers nous. » C'est ce que dit le verset des psukim, des morceaux du Zohar. L'histoire du visage, le panim, d'Akadosh Baruch Hu, ça veut toujours dire la présence de la shrina, quoi, la présence divine. Donc, ça vient bien montrer que ce qui était central dans la prière de Moshe Rabbeinu, c'est vraiment ce problème du Aaron. Et on voit dans la deuxième prière, quand les Bnei Israël devaient camper, alors il disait « Shuvah Hashem rivvot alfei Israël ». Et le Zohar là-dessus dit, pardon, ça c'est le Targum de Yonatan, d'abord, qui dit Targum dit, lorsque le Aaron devait s'arrêter, le Hanan, la nuée, Mekapel Vekaim Velo ave paris. Donc le nuage se repliait. Le nuage, la nuée qui devrait, au lieu qu'elle, quand ils étaient en chemin, elle avançait. Et là, pour montrer qu'ils allaient s'arrêter, ça se repliait. Et à ce moment-là, Moshe Rabbeinu était en quelque sorte à l'ombre de ce nuage. Et il prie, et il demandait Rachamim, il faisait appel à la tendresse divine, et il disait qu'il demandait à Hachem de faire fonctionner la tendresse, en quelque sorte, à l'égard de ton peuple Israël. Et donc, fais en sorte que ta présence divine soit présente parmi eux. Et en quelque sorte, aie pitié de l'ensemble de la maison d'Yaakov, de ces milliers de juifs, en fait. La Gemara dans Masechet Avodah Zarah, elle dit, au nom de Rabbi Yitzhak, d'après une opinion, elle dit, Kasher Moshe Rabbeinu Haya Mitpalel, Ota Tfila, lorsque Moshe Rabbeinu priait cette fameuse prière de Vayi Binso Aaron, Azaya Yu Israël Onin Vomrim, les Bnei Israël, eux, ils répondaient, en fait. Et ils disaient, que Israël se réjouit et il chante en fonction parce qu'ils ont ce bijou qui leur a été donné et qui se trouve dans le Aaron. C'est-à-dire, il disait que la Torah, c'est comme ça que Rashi l'explique, que le dévoilement spirituel, en fait, dont Israël a bénéficié quand ils ont accepté la Torah, c'est quelque chose d'absolument splendide. C'est-à-dire, il parlait ici de cette couronne spirituelle qui est le fameux Keter, la couronne de la présence divine. Et le Marcho explique que cette couronne, elle était Ben Badé à Aaron. La couronne était entre les barres. Vous vous souvenez que pour le transport du Shulchan et d'autres choses, il y avait des anneaux sur les meubles, sur le mobilier en question. On passait des barres. Et ça permettait aux Bnei Israël de porter ce mobilier sur leurs épaules. Mais quand on campait, on enlevait les barres du Shulchan de la terre, sauf les barres du Aaron, ces barres, elles restaient toujours là. On les enlevait jamais. Bien que ce soit des barres qui, a priori, étaient là pour le transport, mais on les enlevait jamais, même quand on campait. Donc la présence divine, la couronne divine, disait le marchand, elle était là entre les bas des Aaron. Ça veut dire que dans cette paracha de Vayi Binso Aaron, ce qui est décrit, c'est un des aspects de cette présence divine dans le clan d'Israël, grâce ou par l'intermédiaire du Aaron. Quand les Bnei Israël se tournaient vers Hachem, ce qui, par exemple, s'est exprimé par la Kabbalat HaTorah, bien quand ils font le Ratzon Hashem, c'est ça qu'on appelle se tourner vers Hashem. Du coup, Akadosh Baruch Hu se tourne vers eux. Et sa présence, et il fait résider la Shrina parmi eux. Et c'est comme ça que se fabrique le Yichud, c'est de l'unité complète entre Akadosh Baruch Hu et son peuple, le peuple d'Israël. Alors, cette parcha qui est entourée des deux Noun, on peut essayer de comprendre un peu pourquoi elle est entourée comme ça. On a dit donc que cette parasha, elle montre un des aspects de Hashrat Hashrina, l'importance de cet Hashrat Hashrina, le désir du clan d'Israël, en tout cas de Moshe Rabbeinu, qu'il y ait cette présence divine. Et ça, c'est, disons, attesté, si on peut parler comme ça, par ces fameux deux Nouns-là qui l'entourent. Parce qu'on ramène au nom de ce Rabbi Tzvok Isaac Raver que les deux lettres, les deux Nouns à l'envers, qui se font face en réalité, elles représentent le mouvement du clan d'Israël qui se tourne vers Hachem. Et à l'inverse, le mouvement d'Hachem qui se tourne vers le clan d'Israël, donc c'est ce rapport d'amour qu'on appelle Hashrat Hashrina. Mais la raison pour laquelle les Nouns sont écrits à l'envers, ça vient nous faire allusion au fait que les Bnei Israël, qui sont partis du Sinaï, comme je vous ai dit, comme un enfant qui s'enfuit de l'école. Alors, ça correspond à cette inversion des Nouns, qui montre qu'Akadosh Baruch Hu afach et panav le umat Israël. Vous enu yachol להעיר ולהשפיע על ישראל בחיבה ובאהבה פתוחה וגלויה. C'est-à-dire, quelque part, puisque les Bnei Israël sont partis, alors Hachem s'est détourné quand même des Bnei Israël. Ça veut dire que il ne peut, Hachem s'interdit du coup, d'être mashpia, c'est-à-dire d'envoyer ses bontés, sa lumière, etc., sur le clan d'Israël, de façon tout à fait claire. C'est à l'envers, c'est caché en fait, c'est enveloppé. Alors la vérité, c'est que après la faute des Bnei Israël, les Nouns auraient dû s'en aller complètement pour montrer que Hachem a détourné complètement son visage d'eux. Mais comme on l'a déjà dit, la tfila de Moshe Rabbeinu, de Kuma et Shuva Hashem, Kuma Hashem, Shuva Hashem, deux prières qui ont toutes les deux pour but d'obtenir la continuité de Hashrat Hashrina. Alors ils sont restés là quand même. Mais seulement ils sont à l'envers. Alors, cette présence, malgré tout, des Nouns, elle donne une possibilité que même durant la faute, une situation de faute, il y a quand même présence d'Hachem dans le clan d'Israël. Et c'est grâce à cela, en quelque sorte, que la deuxième partie du Sefer de Bamidbar, celle qui qui décrit le lien et la proximité de Akadosh Baruch Hu avec le clan d'Israël, bien que il soit dans une situation de faute. C'est pas toute cette période-là, c'est la période où les Bnei Israël sont en train de payer pour la faute des explorateurs. Et la faute des explorateurs, comme on l'a déjà dit souvent, elle a fait tomber le fameux sourcil. On avait dit que le pardon du Chet HaEgel, c'est seulement un sourcil. Et le sourcil est tombé quand les Bnei Israël ont fauté avec, à l'époque des, au moment des Meraglim, des explorateurs. Donc, malgré tout, c'est-à-dire que les Bnei Israël, durant toute cette période-là, c'est 40 ans, là, enfin 38 ans de promenade, c'est pas une errance parce qu'ils étaient guidés quand même, mais ils ont fauté, refauté, etc. Mais pendant ce temps-là, toutes les années, il y avait une partie du clan d'Israël qui disparaissait, comme vous savez. Et malgré tout, grâce à la prière de Moshe Rabbeinu, la présence divine dans le clan d'Israël, elle reste là. Et quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, Hachem laisse sa présence divine sur nous. C'est marqué dans le Passouk, dans les, dans le Sefer Vaikra, c'est écrit « Ashochen itam betor timotam ». Hachem réside avec eux au sein même de leur impureté. Les Chazal disent dans Yuma, ils disent « Afiluk shen tmeim shrina beneyem ». Même quand les Bnei Israël sont tamés, la Shrina est toujours avec eux. Rabbeinu Bechaye, sur ce pasuk dans Sefer Vaikra, Shochenitam et Tortumotam, il dit Afalpi Shem Tmeim Shrina Beneem, Veze Ayadat Rabbi Yudazan, et Masechet Sukkah. C'est l'opinion de Rabbi Yehuda, dans ce cas. Shaya Omer, Shemesachin, Bedavar Amkabel Touma. Lui, il disait qu'on peut quand même faire du skach avec quelque chose qui reçoit l'impureté. Nous, on ne fait pas ça. D'accord? Nous, on ne prend justement pas un skach avec des choses qui reçoivent l'impureté. Mais lui, Sachita, il dit on peut, puisque Hachem y réside même quand on est dans l'impureté. C'est à partir de ce verset-là que Rabbi Yehuda disait ce qu'il disait. Bien sûr, l'alacha n'est pas comme lui, ça se saurait. D'accord? Chazal s'endorèche, effectivement, que Akadosh Baruch Hu va yirach et reach Bogdav, Begadav, ça veut dire Bogdav. Hachem, il a respiré l'odeur des vêtements, mais ce n'est pas les vêtements, c'est Begadav, il faut lire Bogdav, de ceux qui se révoltent contre lui. Afilu Reach Bogdav. Même cette odeur-là, Hachem l'accepte en quelque sorte. Chazal, son Doresh là-dessus, dans le Passouk qui dit Alita Lamakom, la marron, pardon, que tu es monté au ciel, Shavita Shibia, etc. Ve'af sorerim, même ceux qui sont sorers, même ceux qui se révoltent, qui se dévient complètement, Hachem Elohim est d'accord de rester parmi eux. Donc, bon, il y a d'autres psukim où on voit que quand je vous croyais d'accord, il a accepté, grâce à la prière de Moshe Rabbeinu, il a accepté de continuer de résider parmi les Bnei Israël, même quand les Bnei Israël étaient dans un état d'impureté, de faute. D'après ça, on peut entendre un peu mieux ce qu'on avait dit dans le premier texte. On avait dit, le texte disait, Elushne Nunin, Em Kvodo Shelakadosh Boko Mamash. Ces deux nuns sont la gloire, la splendeur d'Hachem. Ven Ikaro Shel Olam. Elles sont le fondement du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces deux nuns qui indiquent présence divine, dire qu'ils sont le kavod d'Akadosh Baruch Hu Mamash, c'est pourquoi est-ce que, comment on peut dire une chose pareille? C'est parce que Aliyedei Ashchina, c'est la gloire d'Hachem, c'est quoi? La gloire d'Hachem, c'est quand elle se manifeste, quand il y a des gens pour apprécier cette gloire d'Hachem. Donc, si Hachem, si cette gloire ne se manifestait pas dans le clan Israël, alors elle ne sert à rien. Donc, il n'y a de gloire divine que s'il y a quelqu'un pour l'apprécier d'une certaine façon. Même si les Bnei Israël ne sont pas à la hauteur. En pasouk, c'est marqué Venoad Tishama, les Bnei Israël, Venigdash Bichrodi. C'est aussi marqué Avti. Hachem dit Mon betecha, makon mishkan kvodecha. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu dit, au fond, je serai présent là pour les Bnei Israël et je serai sanctifié par ma gloire. Quelle gloire il y a quand les Bnei Israël se conduisent mal. C'est-à-dire cet aspect que cet aspect-là de présence divine malgré la conduite d'Ibn Israël. Cette Bechina, elle est le Yosod Vikar Tachlit Magamat HaOlam. Comme Chazal disent, ils ont appelé ça Ikaro Shel Olam. C'est l'essentiel du monde. Pourquoi? Parce que Midrech HaTov Leitiv, le bien veut s'épancher, le bien veut se répandre, en fait. Akadosh Baruch Hu, qui est le bien, il a créé un monde qui est Sheyuchal Livro Livraim Sheizku Beshifo Betuvo. Akadosh Baruch Hu a créé un monde où les créatures vont pouvoir bénéficier du flux de ses bontés, sa lumière, ses bontés, son énergie. Mais pour que les créatures n'aient pas honte de ce qu'ils reçoivent. Alors, comme on a vu déjà, Kosh Boko a fait dépendre ce flux de la façon dont les créatures se conduisent à son égard. Donc, quelque part, c'est toujours ce fameux de Nama de Kisufa, ce pain de la honte, quoi. Hachem a voulu leur donner, mais que la chose ne leur apparaisse pas, ne soit pas honteuse, alors il a donné les choses de telle sorte qu'elles apparaissent comme un salaire. Quand on a un salaire, alors quand l'employeur verse un salaire à l'employé, il lui fait pas une tova, il lui paye, il lui donne son salaire. Donc pour que les Bnei Israël, les créatures initialement, puissent jouir des bontés d'Hachem sans la honte de recevoir quelque chose alors qu'on est en position de recevoir, c'est cette asymétrie qu'il y a entre celui qui donne et celui qui reçoit. C'est très problématique. Vous savez bien qu'un des problèmes de la tzedaka, c'est comment est-ce qu'on donne. Comment est-ce que tu donnes? Tu peux donner à quelqu'un de quoi manger, mais tu l'as tué. Suivant comment tu lui donnes, il aura peut-être de quoi manger, mais il va mourir parce que tu l'as tué. Parce que c'est tout un problème de savoir comment donner à quelqu'un à cause de cette asymétrie qu'il y a dans le don. Après, il y a aussi une asymétrie dans la gratitude aussi, mais cette asymétrie, c'est cette boucha. Donc Hachem a essayé, il a fait en sorte que les choses n'apparaissent pas comme de la boucha. Bon, c'est, on, je sais pas, on, le Ramchal, il en parle beaucoup. Et donc, le texte qu'on avait cité au début dit, lorsque Jacob a vu cela, il a béni ses enfants et il leur a dit, Vidgou la rov. Alors, ça veut dire donc effectivement qu'il soit aussi vivant, en quelque sorte, que la mer, que les vagues de la mer. Lorsque Jacob, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Jacob Avinu a compris ce que voulaient dire ces deux nouns, en fait, alors il a demandé à bénir ses enfants pour qu'ils puissent bénéficier de cette main-là, de cette qualité-là, de pouvoir recevoir sans la bouche. Donc, il leur a donné une bracha, veyid gou, vous entendez dag ici, dalet gimel. C'est la bracha des poissons qu'il leur a donnée. Nune yama, c'est, on peut dire, voilà, l'expression c'est nune, les deux nun de la mer. Shadagim, pourquoi? Parce que les poissons représentent ce inyan des deux nouns qui sont mechoubarim, parce qu'on appelle ça nouné. Zé asher bikesh Yaakov Avinu le'hanchil b'banav. C'est ça que Yaakov Avinu a voulu donner. La bracha qu'il leur a donnée, c'est ça. Qu'ils soient parfaitement vivants, comme les poissons, en fait. C'est ce qui se. Les vagues. On sait que par ailleurs, il n'y a pas d'ainara chez les poissons. Pourquoi? Parce qu'ils sont en quelque sorte protégés par la mer. Donc, l'œil n'a pas de, en quelque sorte, pas de pouvoir réel. Ça vient dire que tout celui qui vit de cette manière-là, qui s'appelle les deux nouns, c'est-à-dire une dvekout complète avec Hachem, celui-là, il est protégé de tout ce qui pourrait mettre en cause sa vie. Parce que la Shrina l'entoure, lui permet de durer, de vivre à l'abri de tout le mal. Et c'est comme ça qu'il arrive, il les aurait vieillit goût la rove, soit aussi nombreux, mais comme les poissons en quelque sorte. Une bracha sans limite, en quelque sorte, matérielle. Alors, ensuite, le texte continue, il dit, Akadosh Baruch Hu otzi et haoumot, miklal otam hashne nounin. Hachem a sorti les haoumot de cette situation d'être entouré par les deux nouns. C'est que c'est marqué que dans la descendance de Esav, il n'y aura pas l'onin, l'o, velonechet. Alors, Nin, c'est un petit enfant, et Nechet, c'est un petit enfant, au contraire. Et vous avez toujours ces nouns, Nin, Nechet. Et Avimelech, qui avait donc voulu s'associer à Yitzhak Avinu, lui aussi voulait être sous la protection de ces deux nouns. C'est pour ça qu'il a dit à Yaakov, à Yitzhak, il lui a dit « Im tshakerli » Le nini ou le nerdi. Oui, pourquoi il parle là, de ses enfants, de ses petits-enfants? Arrière-petits-enfants. Et sur ces nouns-là, la jalousie des peuples, en quelque sorte, à l'égard du clan d'Israël, elle est toujours là, elle s'exerce en permanence. Ils ont un problème parce qu'ils ne sont pas inclus là-dedans. C'est pour ça qu'il y a un passouk qui dit « Ve'amrou belibam » ils disent dans leur cœur « Ninam yachad » On veut être aussi dans les deux « Ninam » dans les deux « Nun » Donc, cette situation particulière de Hashgaha, de présence divine, elle est spécifique au Bnei Israël. Qui Hashem otzi et umot haolam me'aefsharut leidabek beota prina eliona. Kodesh Baruch Hu a exclu les autres peuples de cette possibilité-là. Mais ça éveille leur jalousie, effectivement. C'est pour ça qu'ils cherchent sans arrêt des prétextes contre Israël. Ils en veulent, en fait, mais ils veulent enlever les bénis. Obnei Israël, cette singularité. Atid HaKadosh Baruch Hu l'arzir anunin limkomam. HaKadosh Baruch Hu, il va ramener les nouns à leur place. Et avec ces nouns-là, Atid HaKadosh Baruch Hu le mifrich le haut les Israël à l'idée Mashiach. C'est marqué l'ifne shemesh inon shemo. Donc, ça veut dire, quand, à la fin des temps, quand toutes les choses auront été arrangées, mises en place, alors les nouns vont retrouver leur place. C'est-à-dire, ils vont retrouver une forme qui montre la dvekut du clan Israël avec la Kadosh Baruch Hu. Et c'est ça le Mashiach, il sera inon shemo, c'est-à-dire, ça montrera que les Bnei Israël sont dvukim complètement à la Shrina, à Kdosha. Et c'est pour cette raison qu'ils auront de nouveau accès au Bet HaMikdash et la Shlemut et la perfection dans leur rapport avec Hashem. Chazal disent le Kaf HaChaim le ramène dans la Halakha que quand on dit le modim dans la prière dans la Shmoneh Esrei, tzrich lechaven al yedei ze nitzul shelo yehiye shedro nachash. La Gemara elle dit que celui qui se prosterne pas à un modim, sa colonne vertébrale devient un serpent. Ou modim, c'est en gematria, ça vaut 100. 100, c'est les deux nouns. C'est les nouns qui sont 50-50. Donc, il faut El Kavana, que dans cette démarche du modim, on va, il faut cette reconnaissance-là, elle a quelque part une condition pour que la colonne vertébrale de l'homme ne devienne pas un nachash. Explication. Modim, ça veut dire, c'est la shon hoda, c'est cette reconnaissance. La reconnaissance, c'est par rapport à Hachem, c'est le fait que l'homme comprend qu'il n'est rien, que s'approche au maximum d'Hachem. Et quelque part, cette reconnaissance, elle vient réparer la faute qui est liée au Nahash, qui est liée au serpent, c'est la première faute. Pourquoi? Parce que, justement, le serpent, il a incité l'homme à ne pas être battel à Hachem. Et donc, si maintenant on fait un maasé hoda'a avec la parole et le geste, en quelque sorte, ça arrange ce qu'il coule initial, en fait. Alors finalement, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Évidemment, on espère qu'on arrivera à cette situation où les nouns vont retrouver leur place en réalité. Alors qu'est-ce que ça veut dire vraiment, cette histoire que les nouns vont retrouver leur place? C'est quoi la place des nouns? Bien que les nouns ont été inversés à la suite de la faute d'Ebné Israël, néanmoins, on a une promesse d'Hachem que ultimement, ça va être réparé. Le nun lui-même va donc se renverser de nouveau. C'est-à-dire, il va retrouver sa forme initiale, c'est-à-dire la tête en haut et la queue du nun vers le bas. Pourquoi dans le galout, le nun est inversé? C'est-à-dire que la tête est vers le bas, elle est dans la poussière en quelque sorte. Parce que c'est ce qu'Hachem avait dit au Nahash. Il lui avait dit, quand il a donné la klala au serpent, il lui a dit, oui, choufra roche, vatat choufenu akev. Littéralement, c'est-à-dire que lui, il essaiera de t'écraser la tête et toi, tu essaieras de le piquer au talon. Toi, tu vas pouvoir, le serpent, il aura un pouvoir sur le talon du noun. C'est-à-dire, quand il sera retourné, mais où il chauffera roche, mais lui, il va t'écraser la tête. Quand le nun sera, il aura retrouvé sa forme, il va t'écraser. C'est parce que en réalité, la lettre nun, si on regarde comment est-ce qu'elle est fabriquée, comment est-ce qu'elle est écrite, cette lettre de nun, on a vu que dans ce que les deux nouns entourent, c'est cette Nesiya Vaibin Soa Aaron et la Mnucha, Mnucha Yomar, sont donc représentées ces deux démarches par les deux nouns, qui forment une paire en quelque sorte. La première, le premier noun, il représente la Nessia, le mouvement, quand les bénis Israël sont en mouvement. C'est-à-dire, en quelque sorte, l'aspect, quand Akadosh Baruch Hu se tourne a priori vers les créatures avec amour, il veut leur donner, comme elle ce qu'ils sont capables de recevoir. Le deuxième Noun, lui, il montre que, il fait référence à la Menoucha, c'est quand Akadosh Baruch Hu chave, lorsqu'il revient à la situation élevée, en fait, et quand il ramène ultimement le monde à la perfection, c'est ça ce que disent les Nouns en question. Parce que la Tzoura, la forme du Noun, le Noun est formé de deux lettres. Un yud qui est sur le vav. On a un vav qui est sur une forme inversée. Et le yud d'en haut correspond à char, à ne'elam, mein kol chai. Ça correspond à un portique qui est inaccessible pour les vivants. Et le point de commencement, la racine de laquelle tout va dépendre, en quelque sorte, ça s'appelle Shaar Hanoun, le 50e portique. Maintenant, le Vav, la barre verticale, donc, le Vav, il indique Ketsad oto shoresh yored ou mishtalshel ad shenepach le prinat nitfaset le musagim shel anivraim atartonim. Ce Vav qui va, il indique un chemin qui rend accessible ce qui est tout en haut, qui est inaccessible. Il invente un chemin qui le rend un peu accessible, quoi. Il y a un chemin. Avec telle sorte que d'en bas, on puisse comprendre un peu quelque chose de ce qui est un plus haut. Pas tout en haut, évidemment. C'est-à-dire, en fait, c'est les 49 degrés, mais qui n'accèdent pas au 50e degré. Donc, ça veut dire que le Noun en lui-même, d'un côté, il indique la Nessia, le mouvement, le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, dans toute la mesure où ce dévoilement est supportable pour les créatures. Et ça, c'est indiqué dans le Noun, qui est écrit avant le verset de Vaïmin Soharod, qui parle donc de la Nessia, comme ça. C'est-à-dire cette situation qui nécessite une avoda, qui nécessite un travail de la part des hommes, une idgabrut, une domination sur les forces du mal. Mais d'un autre côté, ce même Noun, il indique aussi la menoucha du monde. C'est-à-dire, parce que le lieu du yud à la tête du vav et le fait que la lettre vav sous le yud est inversée en réalité, ça indique que le yud, il domine le vav, en fait. Ce qui me ramène à la situation chez Yusak Betikun Hashalem, chez la Bria. Ça, c'est la situation qu'on aura, situation parfaite à la fin des temps. Que chez Shrinato Itbarach, dans la présence divine, qui est représenté par la lettre Yud, comme toujours, Tishrei b'Israël begalut, ça sera là de façon ouverte, de façon visible sur le clal Israël. Et donc ça, c'est ces deux aspects qu'on voit dans la lettre Noun, donc qu'on voit ici dans le Noun inversé, en quelque sorte, celui du pasuk, qui correspond au pasuk Shuva. Shuva, c'est quand on est arrivé. On est arrivé à la menucha, arrivé à la situation du Mashiach, en fait. Les Chachamim ont instauré Minag Ashkenaz et Sfarad de dire ces deux versets-là, de Vaïbitzoa, Aaron et Shuva, au moment où on sort le Sefer Torah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on sort le Sefer Torah, cette sortie, en quelque sorte, elle indique comment HaKadosh Baruch Hu se dévoile aux créatures. Comment il est là dans toutes les situations qui sont les leurs. À ce moment-là, on dit Vayi Binsoa Aaron, qui montre le premier aspect du Noun dont on a parlé, c'est-à-dire la situation du Sinaï, où HaKadosh Baruch Hu s'est complètement dévoilé, il s'est tourné vers les créatures complètement. Malheureusement, effectivement, ils sont partis en courant. Mais comme la Knesset Israël, prenons maintenant le retour de Arnasat Sefer Torah, donc c'est le mouvement contraire, c'est la situation dans laquelle HaKadosh Baruch Hu, si on peut parler comme ça, retourne à sa place. C'est-à-dire une situation où il est plus visible. Le Aaron, il va être fermé. À ce moment-là, il faut prier pour qu'il y ait un dévoilement dans le futur. On ne voit plus maintenant, mais il faut prier pour le dévoilement au moment de la Menoucha. C'est ça le moment où les Nouns retournent à leur place, ils tournent à leur place. Ça c'est quand effectivement à la fin de l'histoire, les choses reviendront à leur place, là d'où elles n'auraient jamais dû s'éloigner en réalité. Voilà, c'est ce que je voulais vous voir avec vous de ces deux psukim, enfin surtout les nouns. Si c'est un sujet extrêmement riche, il y a énormément de choses à dire sur les Pouranout, pourquoi il fallait séparer ces deux punitions. Pourquoi les Bnei Israël fautent ici de façon qu'on ne peut pas tolérer que ces deux sanctions, donc les deux fautes, apparaissent sans qu'il y ait quelque chose qui les éloigne l'une de l'autre, en tout cas, qui montre que, en fait, il faut, c'est pas une suite de, il y a des moments où le clan d'Israël se casse la figure, puis après d'autres moments où il se casse la figure, mais c'est pas, il fait pas que ça, le clan d'Israël. Et donc, grâce à la Torah, grâce à la prière de Moshe Rabbeinu, en fait, ici, il y a une possibilité de tenir les choses de telle sorte que Hachem n'abandonne pas complètement, parce qu'on a l'impression qu'effectivement, les Bnei Israël font des fautes, ils s'éloignent d'Hachem, ils ne suivent pas du tout. On a l'impression que ça. Voilà, il y avait quelques. Dire que dans cette première partie de Bamidbar, où les Bnei Israël font un chemin qui, de toute manière, il fallait le faire. Il fallait bien passer de Mitzrayim en Eretz Israël. C'était ce chemin qui aurait dû prendre 11 jours, qui a mis 40 ans, quoi. Mais donc, ce qui est avant le premier Noun, c'est avant les fautes, avant la faute qui a entraîné toutes les années de tribulation des Bnei Israël. on a mis en place des choses, et même à ce moment-là qui était un moment très positif, etc., il y a déjà quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas tellement grave que l'enfant il parte en courant de l'école, il y a pire. Que l'Ibn Israël soit... Les Chazal ont entendu dans le fait que les l'Ibn Israël sont partis, va Issou, mais en Sinaï, ça veut dire... Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ils sont partis comme ça? Et pourquoi est-ce qu'il fallait bien qu'ils partent à un moment ou à un autre? Donc, il y a tout un problème de... Des fois, il faut partir, mais que, comme peut-être il faut partir à reculons. Il aurait dû peut-être partir en montrant que il nous est très difficile de quitter cet endroit-là. On est obligé d'avancer puisqu'on doit aller en Eretz Israël, mais on a du mal à devoir partir. Il y a d'autres Chazal qui disent qu'en vérité, ils ne voulaient pas partir du tout. Parce qu'ils étaient... C'était extraordinaire, le Sinaï. C'était une expérience absolument fabuleuse. Ils ne voulaient pas quitter cette expérience-là. Probablement, quand ils ont compris que l'expérience était terminée et qu'il leur incombait d'en faire quelque chose de cette expérience, le Ramban dit que le Mishkan, c'est un Sinaï portatif. Donc, pour Ramban, le Sinaï, ce n'est pas un événement. Le Sinaï, c'est le commencement de quelque chose qu'on va pouvoir porter avec soi. Ce n'est pas un événement qui a eu lieu et qu'on commémore en tant que tel. C'est quelque chose qui... Un élément constitutif du clan d'Israël, quasiment. Quand Israël, il doit vivre avec un Sinaï permanent. Il faut bien que ça commence à un moment ou à un autre. Donc ça a commencé. Mais le Mishkan, c'était ça, le Mishkan. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas seulement pour des korbanot, c'était revivre en permanence l'expérience Sinaï. Donc c'était très difficile à imaginer. Puisque c'est bien ce qui se passait, puisque Hachem a dit « Je veux résider dans le cœur de chacun. » Donc le Mishkan, c'était simplement un moyen de se rappeler qu'Hachem veut résider dans le cœur de chacun. Au Sinaï, chacun a vécu le Sinaï à sa manière. Chacun, le Midrash, n'arrête pas d'expliquer que chacun au Sinaï a entendu les voix d'Hachem, la voix d'Hachem d'une autre manière. Chacun l'a entendu de la manière de la façon dont il pouvait l'entendre. Midrash dit, les jeunes l'ont entendu de leur manière, les vieux l'ont entendu, les hommes, les femmes, les femmes enceintes, les oubarines dans le ventre de leur mère. Chacun a entendu la voix d'Hachem à sa hauteur, en quelque sorte. Chacun en fonction de ce qu'il était. C'était bouleversant, mais on ne mourrait pas définitivement. On ne mourrait pas définitivement. Quand même, c'était énorme, mais c'était chacun en fonction de ce qu'il était. Et donc, ça veut dire que le Beth Amikdash, enfin, ou le Mishkan à ce moment-là, le Mishkan lui aussi, si il doit être un Sinaï portatif, ça veut dire que lui aussi doit être vécu par chacun à sa manière. Chacun doit comprendre ce que peut bien être pour lui le Mishkan, puisque c'est un Sinaï portatif. Et d'une certaine manière, c'est tout est comme ça. On prie tous la même tfila, mais chacun doit faire que la tfila soit la sienne, avec les mêmes mots que le voisin. et au même moment que le voisin. Et pourtant, chacun, on peut pas. Ça doit venir de l'intérieur. Ça ne peut pas être la même chose que celui qui se passe chez le voisin. Mais du coup, ça nécessite un travail. Parce qu'il y a une possibilité de prier, par exemple, exactement comme le voisin. On prie de la même manière. C'est souvent complètement faux. C'est pas comme ça que ça doit être. Mais ça consiste pas à dire d'autres mots. On n'a pas besoin d'autres mots. C'est un problème de kavana, un problème d'intention. Quand les Nessim ont apporté tous la même chose, d'accord, mais chacun a donné un autre sens à ce qui a été amené. Ce que la tribu d'Yuda a amené, c'était en termes de royauté, l'Issachar, c'est en termes de Torah, etc. On avait vu un jour un Midrash, je ne sais pas, tout le monde n'a pas entendu. On a vu dans le Midrash, que le Midrash, il explique, je crois, 5 ou 6 de... des Kavanot de différentes tribus qui amènent tous la même chose, Karaké, Sef, etc. Et le Midrash explique, il explique en termes de royauté, en termes de Torah, les deux premiers, mais je crois qu'il explique 4 ou 5, il n'explique pas les 12. Mais il donne probablement un peu une idée de dans quel sens il faudrait l'entendre. Chacun va donner un autre sens aux mêmes objets, aux mêmes dons. De toute manière, tout est comme ça. Je veux dire, c'est évident que quelqu'un qui a fait une faute de Shogeg et qui amène un Korban Khatat, il ne peut pas amener, il ne peut pas être dans le même état que son voisin. Pour chacun, la faute qu'on a faite par inadvertance, chacun, qu'est-ce que c'est une inadvertance chez moi et chez mon voisin, ce n'est pas la même chose. Et combien ça m'affecte d'avoir fait cette faute, etc. Tout ça, c'est archi-personnel. Mais la Torah dit que tu amènes le même corban. Le reste, c'est ton boulot. À toi de le faire. Voilà, on s'arrête là.